Bonjour Laïla Chabi.
Bonjour.
Est-ce que vous êtes satisfaite de votre campagne européenne, quand je dis la vôtre, celle de votre mouvement, et d'une manière générale de la campagne européenne ?
Alors du côté de la France Insoumise, la campagne, elle a commencé il y a un petit bout de temps déjà. On a commencé en décembre, on a publié notre programme en décembre, contrairement à d'autres qui, comme je pense notamment à la liste de Nathalie Loiseau de La République En Marche qui a publié son programme la semaine dernière.
Mais le 9 mai.
Nous, c'est vrai qu'on a une campagne, à la fois une campagne vraiment de terrain où on quadrille le territoire depuis des mois et des mois avec tout un tas de réunions publiques, des choses qui se voient moins hein, d'un point de vue médiatique, mais je pense qu'on jouait à la dynamique qu'on connaît actuellement. On a l'impression de récolter les fruits, de sentir depuis plusieurs semaines que il y a une vraie dynamique de campagne, il y a des gens qui s'intéressent à notre programme.
Qui ne se traduit pas forcément dans les sondages.
Oui, alors maintenant aussi, on est à moins de 10 jours de l'élection, et en fait, on a du mal à parler des élections européennes, on a du mal à parler de notre projet, de nos propositions sur dans les médias, par exemple, et on se dit que c'est traditionnellement l'élection qui intéresse le moins les gens, c'est là où il y a le plus d'abstention, et on se dit que c'est le moment, à 10 jours de l'élection, où tout un tas de gens qui jusque-là s'étaient pas intéressés à ces enjeux vont s'intéresser, vont regarder nos programmes, vont regarder nos propositions. Et c'est vraiment le moment où on peut gagner des points et amplifier notre dynamique.
Vous pensez que les Français sous-estiment l'importance de ces élections, qu'ils sous-estiment le poids et le rôle du Parlement européen ?
Alors c'est vrai qu'on peut se dire que le Parlement européen, les élections européennes, c'est loin, c'est déconnecté des réalités quotidiennes. Et ce qu'on essaye de montrer, justement, dans le cadre de ces élections, c'est que, au contraire, toutes les préoccupations de la vie quotidienne, celles qui ont émergé ces derniers mois, dans le cadre notamment du mouvement des Gilets jaunes, mais au-delà, par les Français qui soutenaient les propositions qui étaient portées dans ce mouvement. Les propositions en matière de justice sociale, de justice fiscale, pour demander plus de services publics. Et on a l'impression que c'est déconnecté des enjeux européens. Alors qu'au contraire, quand Emmanuel Macron décide d'augmenter les taxes, par exemple, et puis de supprimer l'ISF, là, il s'intègre dans le cadre de l'Union européenne qui empêche l'harmonisation fiscale. Quand Emmanuel Macron limite les services publics, détruit les services publics, ferme des écoles, ferme des hôpitaux, eh bien là, il ferait pas ça si on n'avait pas ce carcan qui est la règle des 3%, vous savez, qui est une règle qui fait que quand vous êtes un pays membre de l'Union européenne, vous n'avez pas le droit de dépasser 3% de déficit. Ça vous empêche d'investir dans les services publics. Pourrais vous donner un tas d'exemples comme ça.
Vous rejoignez finalement ce que disait Jean-Luc Mélenchon dans une tribune intitulée « Sortez des traités stupides » qui avait été publiée à la mi-mars dans Libération. Tribune dans laquelle il conditionnait la réalisation du programme des Insoumis à une sortie des traités qui organisent l'Union européenne. Et la question, on vous l'a déjà posé, mais que tout le monde se pose, c'est est-ce qu'on peut sortir des traités sans sortir de l'Union européenne ?
Nous, on pense, oui, effectivement, que sur un certain nombre de choses, on peut modifier les traités. En fait, la France, c'est pas n'importe qui en Europe. C'est un grand pays. On est en capacité de mener un rapport de force.
Vous n'êtes pas les premiers à le dire. Avec nous, ça sera pas comme avant. On va
qui l'avait dit ?
François Hollande, Emmanuel Macron.
Mais justement, la différence.
Nicolas Sarkozy, en gros, tout le monde.
Vous avez complètement raison de parler de François Hollande. François Hollande, quand il a été élu, il y avait de l'espoir dans la population. Les gens se disaient, ça va changer de Nicolas Sarkozy. François Hollande, il avait dit, une des premières choses que je ferais, c'est de renégocier le TSCG. Et en fait, il l'a jamais fait. C'est ce qui a justifié le fait qu'il a pas pu mener une politique en faveur de l'intérêt de la majorité des gens, parce qu'à chaque fois, on nous dit, c'est de la faute de l'Europe. Je ne peux pas mener cette politique-là. C'est bien pour ça que nous, on dit la priorité, c'est le vote des Français et des Françaises, c'est la souveraineté populaire. Ça passera par désobéir aux traités européens. Et François Hollande n'avait même pas essayé. On n'a aucun gouvernement qui a, ne serait-ce qu'essayé, de mener ce rapport de force. Nous, on dit qu'on a la possibilité, parce qu'on est une grande puissance. Il n'y a pas d'Europe sans la France. Et puis, en plus, on est des contributeurs nets de l'Union européenne, ce qui fait que ça nous fait un certain nombre de moyens de pression. Mais après, au-delà de ça, il y a quand même des choses, parce qu'on pourrait se dire, mais alors, s'il faut changer les traités, à quoi bon envoyer des eurodéputés insoumis au Parlement européen pourquoi vous vous présentez pourquoi vous êtes candidate si vous dites qu'il faut changer les traités? C'est pas les eurodéputés qui vont changer les traités. Là-dessus, vous avez raison de souligner, c'est le chef du gouvernement, et nous, en l'occurrence, on s'inscrit dans la perspective de 2022. Mais pour autant, il y a des choses qui sont possibles dans ce cadre du Parlement européen. On a un eurodéputé qui s'appelle Younous Omarjee qui a permis d'interdire la pêche électrique. Malgré le cadre contraint, on peut faire avancer des dossiers. Et moi, je compare souvent ça au cadre de la Ve République. On a 17 députés à l'Assemblée nationale en France. Le cadre de la Ve République pour des députés insoumis, il est aussi contraint et contraignant que le cadre de l'Union européenne pour des eurodéputés insoumis. Par ailleurs, il y a toute une série de choses sur lesquelles on peut vraiment être utile et pour lesquelles il est important d'envoyer un maximum d'eurodéputés insoumis.
Votre mouvement a beaucoup dénoncé au cours de ces dernières semaines la mise en scène d'un duel entre La République En Marche et le Rassemblement National. Mais au fond, est-ce que ça n'est pas dans l'ordre normal des choses? Dans une compétition sportive, par exemple, on s'intéresse toujours beaucoup plus à la bataille entre le premier et le deuxième pour savoir qui va passer finalement la ligne en premier ou qui va l'emporter qu'au troisième, au quatrième ou au cinquième.
Là, on a plutôt l'impression qu'on est dans un match de foot en fait, où il n'y a que deux équipes.
Dans une compétition de foot, on s'intéresse toujours plus aux deux premiers que dans un match de foot,
à la fin, il y a deux équipes en lice. Quand on est dans le cadre d'une élection présidentielle, par exemple, une élection à deux tours, c'est logique de se dire il y a un gagnant à la fin. Mais là, on est dans une élection à proportionnelle, et en fait, ce qu'on constate, c'est que depuis des mois et des mois, depuis l'été dernier, Emmanuel Macron veut imposer ce scénario, qui est le scénario du deuxième tour de l'élection présidentielle de 2017. Parce que le fait de dire « il n'y a que moi ou le chaos », ben c'est bien pratique, ça empêche les gens de réfléchir, vous n'avez pas besoin de développer des arguments, vous faites simplement du chantage auprès des électeurs en leur disant « si vous votez pas pour moi, ben ça va être l'extrême droite ». Et depuis des mois et des mois, il essaye d'imposer ce scénario. Malheureusement, force est de constater que c'est le scénario qui s'impose. Nous, ce qu'on veut dire, c'est que il n'y a pas à... ne se résigner à n'avoir que l'extrême libéralisme ou l'extrême droite, que forcément Macron ou Le Pen. Non, qu'il y a une troisième voie qui est possible. Il y a une autre alternative qui est possible, c'est celle de la France insoumise. Et d'ailleurs, c'est une alternative qu'on construit au niveau européen. Contrairement à une petite musique ambiante qui dit souvent la France insoumise, vous êtes repliés sur vos frontières, vous vous en fichez de l'Europe. On le dit peu parce qu'on a peu l'occasion de parler d'Europe, et je suis ravie d'ailleurs de le faire chez vous ce matin. On construit notre mouvement dans le cadre d'une alliance européenne avec des Portugais, des Espagnols, des Finlandais, des Danois.
Un sondage qui est publié ce matin par le Figaro révèle que 58% des sympathisants de la France insoumise pensent que le parti de Marine Le Pen doit aujourd'hui être considéré comme un parti comme les autres. Et 36% des sympathisants de la France insoumise ont une bonne image du Rassemblement National. Est-ce que ces chiffres vous surprennent?
Complètement. J'ai pas vu le sondage, mais le but, c'est de dire qu'en fait, il y aurait une proximité entre l'extrême droite de Marine Le Pen et la France insoumise. Alors là, je vous arrête tout de suite.
Cet élu de la France insoumise qui a quitté le mouvement il y a quelques jours en annonçant qu'il appelait à voter pour la liste de Jordan Bardella, et vous avez bien entendu que vos adversaires disent c'est la démonstration qu'il y a une proximité idéologique entre les deux.
Donc cet élu, qui était un élu du conseil régional dont personne n'avait entendu parler jusque-là, à 12 jours de l'élection du premier tour, qui appelle à voter pour la liste de Marine Le Pen, faut pas être né de la dernière pluie pour se rendre compte que c'est un coup monté. Nous, justement, on s'oppose en tout point au Rassemblement National.
Est-ce que vous considérez comme un mouvement populiste?
On est les premiers opposants au Rassemblement National. Ceux qui font monter le Rassemblement National et le Front National, c'est toujours les politiques où il y a de plus en plus d'inégalités, c'est l'augmentation du chômage. Et nous, on s'oppose justement à la fois aux causes et aux conséquences.
Est-ce que vous vous reconnaissez comme un mouvement populiste?
Le terme de populisme de gauche, c'est vrai que c'est quelque chose qui nous intéresse, dans le sens où...
Parce que François Ruffin a dit hier soir, on me reproche d'être populiste, je le suis.
Oui, mais alors, moi ça me choque, c'est un terme qui me choque pas, le terme de populiste de gauche, c'est développé par nos camarades de Podemos, par exemple, en Espagne, mais par contre, c'est à ne surtout pas confondre avec l'extrême droite, enfin ça n'a rien à voir avec la
discussion. Il y a les bons populistes et les mauvais populistes.
La question du populisme, en fait, moi ce qui m'intéresse dans la question du populisme, c'est comment on va parler au peuple, en fait, comment on s'adresse au peuple, et comment on fait en sorte d'arrêter d'avoir des politiques qui sont déconnectées de la population et de la réalité.
Merci Laila Chabi.
Merci à vous.
Bonne journée.